Le SA15 Mag Attitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du SA15 Mag Attitude. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes environ pour parler du SA15, seulement du SA15 et rien que du SA15. Loïc et Christian, bonsoir, comment allez-vous?
Salut tout le monde, ben écoute, ça va bien. Ben ouais, effectivement, la preuve, j'étais pas là la semaine dernière. Donc on n'est pas tous dispo, mais c'est bon, là, cette fois-ci, je suis bien là pour parler du SA15 et rien que du SA15.
Bon, super, on est content que tu sois là aussi. Christian, ça va?
Très bien, après un petit week-end de repos, on part sur un nouveau bloc, donc hâte de voir le prochain match.
Ok, très bien, écoutez, si vous le voulez, on va lancer le sommaire de l'émission.
Le SA15 Mag Attitude, le sommaire.
Au sommaire, ce soir, nous allons non pas parler ni de la victoire ni de la défaite du SA15, puisqu'il n'y avait pas de match. Par contre, nous allons parler des jeunes. On va commencer, et c'est la première de l'année, hein, on va pouvoir faire un bilan de cette journée. Les M16, M18 et les Espoirs joués pour les uns à domicile et pour les autres à l'extérieur, à Vannes notamment. Et ensuite, on va parler du prochain bloc du SA15, hein, bien sûr, et revenir sur le bloc passé. Écoutez, si vous le voulez bien, on peut passer tout de suite au résultat des jeunes.
Le SA15 Mag Attitude. SA15 Mag Attitude. Le résultat des jeunes.
Et oui, Loïc, Christian, un résultat des jeunes. On débute, c'est chouette, on le dit à chaque fois. Le SA15, ce n'est pas que l'équipe première, c'est également un centre de formation et une école de rugby. C'est très compliqué pour les M16, M18 et les Espoirs depuis le début de saison. Loïc, Christian, ça s'est pas beaucoup mieux passé pour ces jeunes lors de cette journée.
Moi, je sais pas, j'ai pas tous les résultats, mais j'ai ceux des élites grands boss et les Espoirs. Mais ouais, c'est sûr que ça a pas bien débuté, mais même pas juste ce week-end, on va dire le début de saison, qui était super compliqué, notamment pour les Espoirs, parce que c'est la piquette, hein, comme on peut dire, hein, c'est trois branlés, faut pas mâcher les mots quand c'est comme ça, quand tu prends plus de 160 points en trois matchs. Donc ça va être très compliqué, mais ça, on s'en doutait un peu quand, je sais pas si nos auditeurs et auditrices s'en rappellent, en début de saison, on avait reçu Fabrice Landreau, et Fabrice Landreau, on avait parlé un peu de ce pôle de formation, et il nous avait dit que c'était bien ce qu'ils avaient fait l'année dernière, mais qu'il y avait pas mal d'espoir qui allait passer avec l'équipe 1, donc ça allait manquer de joueurs et d'expérience à ce niveau-là, et effectivement, on le paye très très cher dans ce début de saison. Après, pour parler des Crabos, ça fait quelques journées, maintenant ils ont passé la moitié de la saison de poule, de leur première poule, et que des défaites là aussi, ils ont 4 points. C'est dernier de leur poule, de la poule 7. Donc c'est compliqué pour eux aussi, même si on voit qu'il y a des scores comme par exemple là, le score de ce week-end à Vannes où c'était 26-18. Donc t'es 8 points et voilà, tu te rapproches un peu. C'est ça qui fait plaisir parce que on voit quand même qu'ils vont se battre jusqu'au bout, même à l'extérieur, parce que c'est très très compliqué. Et cette équipe de Vannes était quatrième, elle avait gagné déjà deux matchs, c'est le troisième match qu'elle gagne, mais on aurait pu mieux faire, et faut continuer comme ça pour espérer avoir une victoire dans cette poule-là.
Christian, à la Mercerie, qui sont battus également très très sévèrement à Vannes sur le score de 75-0. Pour eux, la saison, en tout cas cette première partie de saison, va être très très compliquée. Qu'est-ce que tu en penses déjà? Et effectivement, ces espoirs c'est également compliqué. L'année dernière, il y avait eu des matchs assez exceptionnels, hein, face à des gros cylindrés. On se rappelle d'un SA15 qui s'est maintenu plutôt, on va dire, avec de belles armes et qui a montré de belles choses. Là, c'est très très compliqué pour les espoirs, hein, Christian.
Ouais, effectivement, le début de saison est très très compliqué. Je pense qu'on pourrait mettre beaucoup de traits devant le mot compliqué, malheureusement. J'allais justement pour moi faire un parallèle par rapport à la saison dernière, où c'est vrai que les premiers mois de compétition avaient été très compliqués, dans le sens où il y avait des défaites assez larges. Et puis c'est vrai qu'on avait vu, chez les espoirs, bien sûr, avec un très beau maintien à la clé, mais dans les catégories de jeunes un peu plus en dessous, on avait vu au final que au fil des mois les écarts de points diminuaient, et que finalement le SA15 était plus à la lutte avec les autres équipes au fur et à mesure des matchs. Alors, sans rentrer dans une analyse technique, parce que je ne connais pas trop les composantes des effectifs, mais en tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que ces défaites-là soient formatrices. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il était intéressant de jouer contre des très grosses équipes, quitte à perdre ou à prendre des branlées, entre guillemets, plutôt que de jouer contre le village d'à côté et puis de gagner 75-0. Pour moi, une défaite, ça peut être formatrice. En tout cas, faut le prendre dans ce sens-là. Le voyant surtout dans le foot, mais c'est vrai que on est encore dans la formation. Et le problème de la formation, c'est que les supporters, nous, on voit seulement les résultats. Et finalement, les résultats immédiats sont hyper importants parce que lorsqu'on voit une défaite 75-0, ça fait forcément un truc qui m'étache. Mais dans une formation, il faut aussi voir à long terme. Et c'est vrai que moi, j'attache aussi beaucoup d'importance vraiment à la progression des jeunes, alors progression déjà individuelle, que les jeunes vraiment passent les paliers les uns après les autres au fur et à mesure de la saison, et puis une progression collective. Alors oui, il y a des gros écarts en début de saison. L'an dernier, ils avaient réussi à limiter la casse sur les écarts, même à gagner quelques rencontres sur les phases retour. Donc on espère que ce sera aussi le cas cette année. Et puis bah malheureusement, parfois il y a aussi des trous de génération, des générations dorées, et puis il y a des générations qui sont peut-être un peu moins talenteuses et auquel cas il faut un peu plus bosser. Donc peut-être qu'on est dans un trou de génération, je sais pas. Après c'est les formateurs ou les dirigeants du SA15 qui ont les réponses à ces questions là. En tout cas, voilà, c'est vrai que la formation, on est un peu pris entre les deux eaux. On est à la fois tiraillé par les supporters qui veulent des résultats et veulent des victoires immédiates. Mais on est aussi sur du long terme, parce qu'au final, la finalité pour ces joueurs-là, qui sont en centre de formation, c'est pas de mettre des branlées en M17 ou en M15, hein. C'est vraiment de progresser pour intégrer à terme l'équipe en Pro D2.
Ouais, puis Loïc, tu en parlais tout à l'heure, peut-être que l'objectif aussi du club, c'est de pérenniser l'équipe première en Pro D2, parce qu'on sait que s'ils descendent, bah forcément au niveau budget, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Et pour pérenniser un pôle d'attraction au niveau de ce centre de formation, ça risque d'être compliqué. Donc il y a peut-être eu un focus mis un peu plus sur cette équipe première et l'objectif de maintien, pérenniser une équipe en Pro D2 pour, alors pas forcément reconstruire, mais pour aider finalement ce centre de formation à acquérir une solidité aussi et faire venir des joueurs après qui permettront de donner un peu plus de corps finalement à ce groupe.
En fait, c'est un plan, un projet qui a été mis en place, qui est assez long et c'est normal et tout. En fait, voilà, il y a eu l'année dernière de bons joueurs qui sont sortis du lot, que ce soit en espoir ou dans les catégories en dessous. Et ces jeunes-là, on a voulu les mettre en équipe première pour plusieurs choses. Déjà, le projet de jeu de Alexandre Ruiz qui voudrait faire jouer des jeunes. Donc il y a déjà ça. Deux, c'est leur donner une chance. Et trois, c'est montrer en fait à tous ces jeunes de rugby qui ont peut-être 15-16 ans que en fait, voyez, il y a le club d'Angoulême, ils donnent leur chance à leurs jeunes pour jouer en équipe pro. Et ces jeunes-là, en fait, qui sont visés pour venir plus tard dans le club d'Angoulême. Donc, c'est un projet qui est mis en place sur les trois prochaines années, en fait. Donc, la première année, c'est sûr qu'elle est extrêmement compliquée. La deuxième année devrait être meilleure et la troisième, encore plus. C'est ce que espère le staff, l'équipe dirigeante du SA15. Donc maintenant c'est à Fabrice Landreau de jouer là-dessus. Il joue très bien là-dessus en tant que directeur du rugby. Il sait très bien les problèmes qu'il y a là-dessus et je lui fais entièrement confiance pour la suite. Maintenant oui, c'est sûr que maintenant il faut détecter en fait. C'est un truc de détection. Il faut détecter ces jeunes dans les petits clubs aux alentours. Il va y avoir aussi des journées de détection qui vont être faites à Angoulême, je pense, où tous les jeunes aux alentours vont se réunir à Angoulême pour ceux qui veulent jouer au rugby plus tard et peut-être être pris dans ces équipes. Dans ces équipes-là, donc bon, on va voir ça après concernant l'équipe 1. Voilà, on n'avait pas trop de budget, on s'est maintenu à la dernière minute, à la dernière seconde de la Pro D2 l'année dernière. Donc bon, c'est sûr que pour faire des transferts après, c'est un peu plus compliqué faire un recrutement. Donc on tente le coup sur les jeunes, c'est bien aussi, il faut leur donner une chance, sinon ben le rugby va se perdre si on donne pas une chance aux jeunes. Donc on verra bien pour la suite, mais bon, après non, je pense pas qu'ils aient fait ça pour l'équipe une, quoi. Ils ont surtout fait ça pour les joueurs.
Oui, et puis aussi deux trois choses à rajouter, dans le sens où faut pas oublier que le club est descendu en national. Peut-être que cette descente a retardé un peu le projet formation du SA15. Hein. Il y avait la mission de remonter tout de suite, et ce qu'a fait le SA15. Et il y avait surtout à se focaliser entre guillemets sur l'équipe première pour justement revenir en Pro D2 et quitter ce niveau national. Donc peut-être que la formation, peut-être que les plans dont parle Loïc, c'était des choses qui avaient commencé à être mises en place et qui ont été un peu mises sur pause au moment de cette descente. Bien sûr, hein, c'est des hypothèses et des questions que je me pose. Et puis la deuxième question par rapport à la détection dont parlait Loïc, il faut pas oublier où est situé Angoulême, il faut pas oublier qu'à côté il y a quand même deux mastodontes, hein, que sont La Rochelle et Bègle Bordeaux. Angoulême est un peu entre guillemets coincé entre ces clubs-là.
Et c'est vrai. Et Brive aussi.
Et Brive, oui.
Et Brive, c'est vrai, qui est pas très loin.
Quand on parle de formation, bah forcément entre guillemets les meilleurs jeunes partent dans ces grosses structures de top 14, et puis entre guillemets Angoulême, le SA15 a, alors je dis bien entre guillemets, hein, parce que c'est pas dénigrer les jeunes qui sont présents au sein du club, mais entre guillemets le club a des seconds choix, et je pense que ça c'est une réalité, et c'est compliqué de détecter un super joueur, parce que il va aussi être courtisé par des clubs qui sont plus huppés. Et après, voilà, ça c'est la loi un peu du sport et des hiérarchies. Donc c'est compliqué au final de détecter quand on a quand même des gros clubs à côté qui vont prendre, entre guillemets, les meilleurs, la crème de la crème. Et puis, je terminerai sur le fait que, malheureusement, le réservoir en Charente est pas non plus extensible. C'est compliqué de détecter dans le département parce qu'il n'y a pas un énorme réservoir. Et quand tu vas chercher dans les départements d'à côté, ben un jeune de Charente-Maritime, il ira plus à La Rochelle. Un jeune à côté de Limoges, il ira plus peut-être du côté de Brive. Et c'est compliqué d'aller aussi en Gironde. Donc c'est un peu compliqué, je pense, de détecter, parce que ben on est un peu pris en étau entre des très gros clubs.
Je suis d'accord avec certaines choses, mais pas avec tout. Je vais rajouter quand même une petite chose là-dessus. Je suis d'accord avec Christian qu'il y a des clubs comme Bordeaux-Bègle ou comme La Rochelle qui font envie aux jeunes par rapport aux résultats, par rapport à leur équipe après professionnelle et tout, d'aller là-dedans. Mais il n'y a pas que ça en fait aussi. C'est vraiment un travail d'équipe, mais pas que avec le club. Je suis pas bien rentré dedans tout à l'heure, parce que je connais un peu le système, parce que j'ai été étudiant et j'étais étudiant en classe avec des joueurs qui jouaient à Agen et qui sont maintenant professionnels, et d'autres qui sont semi-pro. Donc je sais comment ça se passe. En fait, ça se passe aussi sur les études que les jeunes veulent. Donc ça va se jouer en fait. Fabrice Landreau a ses fonctions dans le club, mais il a aussi une fonction pour parler, que ça soit à la mairie, que ça soit au conseil départemental, que ça soit à la région Nouvelle-Aquitaine et tout ça, pour qu'il y ait en fait, par exemple, plus d'écoles sur cette plus de sections, on va dire, différentes d'études dans cette ville d'Angoulême, pour faire venir plus de jeunes. C'est là aussi que ça se joue, quoi. Ça se joue énormément là-dessus. Moi, quand j'étais à Agen, ils jouaient énormément là-dessus, où à Agen, il y avait une fac de lettres, il y avait une fac d'infirmiers, aides-soignants, il y avait celle où j'étais qui était de la logistique, il y en avait une de gestion administrative et une autre des sciences. Donc ça fait énormément de choses, et ça fait énormément d'horizons pour toucher un gros nombre de jeunes. Bordeaux a ça, La Rochelle a ça, Brive, ça m'étonnerait qu'ils aient tout ça. Donc il faut.
Ah, mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est compliqué. Même moi, je vois pour le foot, hein, c'est compliqué de retenir les meilleurs joueurs, parce que les jeunes partent en fac sur Poitiers, c'est compliqué. Alors là, on parle même pas de haut niveau, on parle de clubs charentais qui essayent de garder leurs jeunes pour les faire évoluer en première ou en équipe jeune, c'est compliqué. Et encore, heureusement, à Angoulême, on a la chance d'avoir une fac de sport, qui est quand même notre domaine. Oui. Le domaine de prédilection.
Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une rupture souvent dans due à la fac, etc., avec le sport on le voit pour tous les jeunes, hein. En général, à 17, 18 ans, bah, ils quittent le club pour partir sur Poitiers, La Rochelle, Bordeaux et jouer après, bah, que ce soit au foot, au hand, peu importe.
Ou alors
le
certains,
sport,
certains restent licenciés, tu vois.
Moi, c'est plus compliqué.
Je connais des jeunes footballeurs qui sont en fac à Poitiers, ils restent licenciés à leur club pirantais, ils reviennent tous les week-ends jouer et ils s'entraînent la semaine avec des clubs à côté de Poitiers. Ça dure un an, deux ans, c'est compliqué de faire la route tous les week-ends.
Ouais, et puis ben forcément, quand t'as cet âge-là, tu te fais aussi des copains, parce que c'est souvent pour ça, hein, quand tu pars et que tu restes dans ton club, c'est parce que t'as des copains. Là, le truc, c'est qu'ils partent et ils se font d'autres copains ailleurs et finalement, bon, finissent par aller au plus simple. Et que c'est effectivement pour les clubs charentais, ben, c'est un peu compliqué, mais effectivement, je te rejoins, Loïc, sur le fait que ben, aujourd'hui, le fait de pas avoir la possibilité à tous ces jeunes bah, d'intégrer des facs multiples sur Angoulême et d'être obligé de partir, eh ben fragilise un petit peu la progression de ces jeunes au sein des clubs charentais, quoi. Ça, je pense que c'est malheureusement un fait, quoi. Mais voilà, en équipe première, on peut voir effectivement cette année bah, des jeunes comme Diakité, hein, qui sortent de la formation, qui est charentais, Rick Bans, qui est arrivé il y a quelques années, qui joue régulièrement, les frères Morand-Bruyant, c'est ça, qui joue assez régulièrement également, le jeune Dubec aussi, qui joue très régulièrement. L'attractivité peut, en tout cas à ce jour, être sur le fait que l'équipe du SA15 fait jouer ces jeunes aussi en équipe première. Donc, compliqué, je pense, et il y a du travail pour les responsables du SA15 et trouver les bonnes solutions, hein, je pense. Parce que l'avenir aussi, qu'est-ce que l'avenir finalement? On pense à un instant T, mais quel sera l'avenir dans 2-3 ans?
Surtout en sport, l'avenir en sport est tellement incertain, il suffit d'une relégation ou d'une promotion et ton avenir, il est transformé x 10 000. Hein. C'est le sport et c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la formation. Le sport, il faut des résultats immédiats, mais il faut aussi penser à moyen terme. Penser à long terme, je pense que c'est presque impossible. Donc on est un peu tiraillé entre le fait de se dire mais où on sera dans 2-3 ans, mais il faut gagner les matchs, le match qui vient le week-end prochain. Donc c'est compliqué, le sport, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime.
Très bien, messieurs. Bien, écoutez, on en a fini avec les résultats des jeunes. On espère bien sûr hein, que les espoirs vont progresser très rapidement, montrer de quoi ils sont capables, parce que je pense qu'ils sont capables. On l'a bien vu là, ils ont été capables quand même d'accrocher l'équipe de Brive, même si elle était supérieure. Mais bon, voilà, l'année dernière, après un très bon début de saison, il y a eu aussi une grande phase très compliquée, et puis finalement la fin de saison s'est plutôt très bien passée pour le SA15. On croise les doigts. Et puis, CM18 qui progresse. Moi, je vois bien une victoire d'ici peu de temps. Ça va risquer d'être plus compliqué pour les M16. Hein. À mon avis, là, c'est mal parti. Ils sont un petit peu loin de leurs adversaires. Écoutez, on va laisser passer une petite page de publicité. Puis, on va revenir, enfin, faire un grand format hein, de 15 minutes environ pour parler du SA15, là l'équipe première hein, de Pro D2 et les échéances à venir.
Le SA15 Mag Attitude, toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude. Réagissez à l'émission sur Facebook, le SA15 Mag Attitude.
Et oui, nous sommes de retour dans le SA15 Mag Attitude. Loïc, Christian, ça y est, on parle de Pro D2. On va faire un tour très rapide. Hein, Loïc, tu n'étais pas là la semaine dernière, tu vas nous donner toi tes impressions sur le bloc passé, qui finalement est mitigé, parce qu'après deux victoires, bon, pas inattendues, Nevers, on se disait, bon, à domicile, ça peut le faire, même si on sait que Nevers fait partie des grosses équipes hein, de cette Pro D2, et puis l'exploit réalisé à Brive. On attendait forcément un 3-3 face à Grenoble, et malheureusement, patatras, Grenoble est venu s'imposer en fin de match, une belle équipe de Grenoble d'ailleurs, hein, solide, face à une pâle équipe du SA15 sur le dernier quart d'heure de ce match. Loïc, un petit bilan de ces trois matchs.
Le petit bilan pour moi, en fait, je suis assez content. Je suis quand même assez content. Certes, il y a quand même une déception par rapport à ce dernier match, mais quand on se rappelle juste avant le bloc où on se disait que ça allait être très compliqué ces trois matchs et qu'il faudrait au moins une victoire, ça serait vraiment top. Alors, au final, on a deux victoires. Donc, faut quand même se rappeler de ça. Faut quand même se rappeler de l'exploit qu'il y a eu à Brive, même s'il y a eu cette déception là. Ou après, c'est pas qu'on se voyait trop beau, non, pas du tout. Mais peut-être que les supporters y croyaient un peu plus. Mais non, ben ça nous a remis un peu dans le droit chemin. Un peu les rêves sont un peu envolés par cette défaite là. Mais non, c'est très bien, hein. Deux victoires sur trois. Il y a quand même oui pas mal d'équipes qui l'ont fait, mais il y a pas tout le monde qui a fait ça. Ces deux victoires là, donc c'est vraiment top d'avoir fait ce résultat-là, surtout gagner contre Nevers. Il n'y a pas grand monde qui va gagner contre Nevers. Et gagner à Brive, il y en a encore moins. Un match où on pouvait un peu souffler parce que Grenoble était derrière nous. Hein. Ils étaient, je crois, juste un point derrière nous, donc un ou deux points. Donc voilà, ça aurait fait ce petit break de un match. Mais bon, bah après c'est comme ça. Mais non, je suis quand même assez satisfait. Maintenant, il va falloir continuer comme ça pour ce prochain bloc de trois matchs qui arrive, avec encore deux matchs à domicile. Donc, va falloir prendre des points, parce que sinon la seconde partie de saison va être compliquée, parce que ça veut dire qu'on aura plus de matchs à l'extérieur en deuxième partie de saison.
Ouais, on va le voir dans quelques instants, notamment face à des adversaires quand même un peu plus adaptés, on va dire, au SA15. Christian, rapidement, parce qu'on en avait parlé déjà la semaine dernière, c'était pareil, hein, tu disais que c'était bon, un bilan plutôt correct, même si je crois que tu avais employé le mot un peu de frustration de ce dernier match.
Bah forcément, c'est vrai que dans un livre, on retient surtout la fin de l'histoire, et c'est vrai que la fin de l'histoire a été moins belle sur ce bloc. Ouais, j'avais surtout dit que cette défaite contre Grenoble, elle nuançait un peu le bloc, même si ça restait quand même un bloc positif, hein. C'est vrai que quand on sortait les deux défaites à domicile et qu'on voyait se profiler Nevers, Brive et Grenoble, bah on n'était pas forcément très fiers, et puis on se demandait où le SA15 pouvait prendre des points. Donc au final, deux victoires sur trois, c'est bien, mais c'est vrai que dans la situation du SA15 avec ce déficit de points à domicile, il fallait gagner contre Grenoble. Parce que quand on regarde le classement, le classement général et le classement à domicile, c'est à peu près les mêmes. Et on voit que le SA15, même si le SA15 voyage bien, le ratio points pris par les équipes à domicile est quand même largement supérieur. Donc pour moi, dans cette Pro D2, c'est gagner chez soi, ça paye plus que bien voyager. Ou alors, faudrait voyager comme Van, mais ça, c'est pas permis à tout le monde. Mais en tout cas, oui, pour moi, c'est pas un mauvais bloc. C'est pas non plus un bloc hyper positif. C'est un bloc nuancé par cette défaite contre Grenoble. Même si cette victoire de Brive restera l'un des faits majeurs de cette saison, forcément.
Mais à la fois, hein, voyager en Van, c'est quand même le meilleur moyen. Juste pour revenir pour Van. Et effectivement, il voyage très très bien. Messieurs, on va forcément parler du prochain bloc de trois matchs qui s'annoncent. Premier match à l'extérieur à Valence-Romand. Un match qui s'annonce forcément compliqué au vu du début de saison de Valence-Romand, mais un match qui reste à la portée du SA15, puisque le SA15 a déjà été capable de faire des performances à Valence. Donc, tout d'abord, messieurs, pourquoi pas, hein, puisque les SA15 étaient capables de le faire à Brive. Et ensuite, deux réceptions face à des adversaires plutôt à la portée du SA15. Comment voyez-vous ce bloc?
Je vais commencer tout d'abord par le premier match contre Valence-Romand. C'est une équipe quand même qui donne tout à domicile, enfin qui donne aussi à l'extérieur, mais qui à domicile cartonne. Donc, va falloir prendre cette équipe vraiment au sérieux, parce que elle va nous prendre au sérieux. Je voulais avoir une interview pour l'émission d'aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas réussi l'avoir avec Gauthier Minguillon que je connais. J'ai pas réussi à l'avoir parce qu'ils étaient en vacances, donc ils n'avaient pas le droit d'interview, et après ils sont partis en stage de cohésion où aucun média est accepté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une remise en cause, on va dire, un petit peu. Donc c'est vraiment se remettre les pendules à l'endroit, parce que ils sortent de deux ou trois défaites d'affilée, donc ils sont dans un mauvais moment, donc ils ont besoin de se ressourcer entre eux, et c'est peut-être pour eux l'occasion de repartir de l'avant face à notre équipe. Donc maintenant, cette équipe de Valence, elle est pas très bien par rapport au début de saison, donc ouais, ça serait top de faire un coup là-bas, et il va falloir, oui, tout donner pour remettre cette machine à l'endroit. Après, je laisse parler Christian sur ce match-là, et ensuite on parlera, je pense, du bloc en entier, quoi.
Ouais, Christian, hein, tu parlais que le SA15 avait pour habitude de bien voyager à Valence. Y crois-tu?
Bah, de toute façon, il faut y croire. Pour moi, c'est un match hyper important dans le sens où Valence Roman et le SA15 jouent le même championnat, c'est-à-dire le championnat pour rester et se maintenir en Pro D2. Donc voilà, c'est un match direct, même s'il reste encore beaucoup de matchs, on est que sur la phase aller, mais ça reste un match direct. On a vu que contre Dax, le SA15 avait concédé un nul, frustrant. Là, il faudra essayer d'aller chercher des points contre cette équipe de Valence qui cartonne à domicile, comme le disait Loïc. Quand on passe 50 à Biarritz, même si Biarritz c'est vraiment sur courant alternatif sur le début de saison, ça reste quand même une performance de choix. Et puis c'est une équipe qui est un peu le contraire du SA15. C'est une équipe qui est très performante à domicile, mais pour qui c'est beaucoup plus compliqué à l'extérieur. Alors que le SA15 est peut-être voyage mieux, mais n'a pas confirmé autant de victoires sur ses réceptions. Donc bah écoute, voilà, le SA15 partira au stade Georges Pompidou avec des références à l'extérieur, il faudra s'en servir. S'ils l'ont fait à Brive, pour moi ils peuvent le faire partout, donc forcément on peut espérer un bon résultat, même si cette équipe de Valence, je pense qu'ils préparent ce match avec la plus grande des attentions, parce qu'ils savent que pour eux c'est aussi un match important, parce que mine de rien, s'ils battent le SA15, ils mettent quand même le SA15 ils font un petit écart, un petit break avec eux. Et puis pour le SA15, voilà, moi je suis un peu fan de train, et c'est vrai que les wagons pour moi sont importants, et c'est vraiment important d'essayer de raccrocher le bon wagon. Donc c'est l'expression que j'emploie quand j'emploie beaucoup, mais c'est important vraiment de pas être décroché. Donc cette victoire de Valence peut permettre, enfin cette victoire potentielle à Valence pourrait permettre au SA15 de revenir sur cette équipe.
Et ensuite, Loïc, le SA15 reçoit deux équipes, dont une que tu connais bien, hein, puisque le SA15 recevra Agen. Puis viendra au Stade Chanzy, Rouen. Cette équipe d'Agen, tu la connais bien. Où en est-elle? Et surtout, le SA15 est-il en capacité de s'imposer à domicile face à Agen?
Ben écoute, ouais, je la connais bien. C'est peut-être mon match le plus attendu de la saison, parce que oui, maintenant
c'est le Loïco.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le Loïco. Ouais, c'est le Derbico. Voilà, c'est vraiment mon match que j'attends, parce que oui, je suis angoumoisin maintenant, mais je suis originaire d'Agen. J'ai passé presque 30 ans à Agen, donc je l'aime cette équipe-là aussi. Mais je vais pas mâcher mes mots, hein, sur l'équipe d'Agen. Pour moi, c'est une équipe d'Agen super malade. Hein, mais super de chez super malade. C'est une équipe qui est pas du tout à son niveau. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour Angoulême, parce que c'est une équipe qui a pas gagné un match à l'extérieur, qui devait gagner à Rouen à 10 minutes de la fin, où ils menaient de 14 ou 17 points, et ils ont réussi à faire match nul là-bas. Donc bon, c'est assez catastrophique, et ils ont pas gagné un match à l'extérieur, et à domicile à chaque fois la plus grande victoire c'était contre Mont-de-Marsan de 13 points à chaque fois, sinon ça a failli perdre. Donc il y a vraiment quelque chose à faire face à cette équipe d'Agen, qui est très indisciplinée, surtout du côté des avants, même s'ils ont un beau pack pour les sorties de touche pour les molles. C'est le point fort d'Agen, c'est le point fort travaillé depuis un an et demi maintenant. Mais il y a beaucoup d'indiscipline, et avec pas mal de cartons, au minimum un carton jaune voire un carton rouge par match. Ça a été ça sur les trois derniers matchs déjà, donc bon, il y aura quelque chose à faire là-dessus. Et puis après, ben c'est vraiment le match d'après, c'est vraiment le match qu'il faut pas louper aussi pour cette équipe d'Angoulême, parce que c'est face à Rouen. Rouen c'est aussi un concurrent direct pour le maintien. Donc Rouen maintenant qui est, alors je sais plus s'ils sont passés devant maintenant.
Non, ils ont 4 points. Ils sont 4 points derrière.
Ils sont 4 points derrière. Donc
ils sont revenus à 4 points suite à leur victoire la semaine précédente.
Ouais, donc ça va être très très intéressant ce match-là, parce que il va falloir prendre le large. Mais pour prendre le large, faut gagner face à cette équipe de Rouen, qui eux aussi ont un bloc de 3 matchs qui va être très compliqué pour eux, hein, parce que c'est aller à Provence, recevoir Grenoble et ensuite aller à Angoulême. Donc ils vont peut-être tout miser sur ce match-là à Angoulême. Donc va vraiment falloir que les joueurs aient envie, et aussi qu'il y ait un public nombreux pour supporter cette équipe angoumoisine pour ce dernier match de 2023.
Ouais, Loïc, moi je t'ai écouté attentivement parler d'Agen notamment. Est-ce que finalement cette équipe ressemble pas sur ce début de saison à l'équipe de Grenoble? Parce que tu disais indiscipliné, qui ne s'était pas imposé du tout à l'extérieur, et finalement il y a quelques points communs avec cette équipe. Après, oui, non, tu disais que non.
Non, 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 elle est encore pire que cette équipe de Grenoble, je trouve. Donc voilà. Ah, je mâche pas mes mots, hein, moi.
Mais est-ce que c'est pire que Biarritz?
Il y a
un match quand même là.
Oui, quand même. Il y a des moments quand même, oui, hein, parce que contre Biarritz, je vais te faire le topo d'il y a 2-3 semaines de ça où il y avait le match Biarritz-Agen. C'était pendant la tempête, donc il y avait des grosses rafales de vent, et j'ai pas compris en fait cette équipe genèse qui avait en première mi-temps le vent dans le dos, et tu joues jamais au pied, tu joues tout à la main, et en deuxième mi-temps ben tu joues tout au pied. Donc j'ai rien compris là-dessus, surtout que ben à la mi-temps je crois que tu mènes 20 à 0 ou 20 à 3, un truc comme ça, alors que tu pouvais mener de plus de 30 points. Eh bien, au final, tu marques pas un point en seconde période et tu perds 35 à 20, un truc comme ça. Tu te prends 35-0 en deuxième mi-temps.
Ah oui.
Et...
bah, ils ont joué à l'envers.
Ah oui, oui. Et ils prennent, et Biarritz se prend un point de bonus offensif. Donc, c'était quand même assez fabuleux. Non, cette équipe, en fait, l'équipe de Grenoble y arrive à domicile. L'équipe d'Agen, je trouve qu'elle a du mal à domicile. Face à Dax, ils ont gagné que 7-3. Face à Brive, ils ont gagné de 3 points. Face à Nevers, ils ont gagné de 4 points. Contre Béziers, ils ont gagné que de 4 points aussi, ou 5 points. Donc c'est tout le temps des matchs serrés. Ils se battent, hein, ils se battent énormément, mais en fin de match, à chaque fois, en seconde période, ça craque. Il y a quelque chose à faire pour Angoulême, surtout en seconde période.
C'est très rassurant, en tout cas, ces mots. Christian, quel est, toi, ton avis sur ces trois prochains matchs? Effectivement, un premier match face à Valence Roman très, très important. Tu parlais la semaine dernière de bonnes habitudes du SA15 quand ils se déplacent là-bas, et ensuite des deux réceptions.
Agen, c'est une équipe qui rappelle des bons souvenirs au SA15 l'an dernier. Ils s'étaient imposés à Chanzy, puis ils avaient pris vraiment un très beau point de bonus défensif du côté d'Armandie. Donc voilà, on espère qu'ils seront sur la même veine cette année. Mais moi, c'est surtout le match de Rouen qui m'intéresse. Il m'intéresse pour deux choses. La première, c'est que Rouen est dernier et que c'est un match hyper important. Mais surtout, il m'intéresse dans le contexte où c'est le dernier match de bloc et il y aura deux matchs avant. C'est compliqué de parler de ce match parce qu'au final, on ne sait pas contextuellement où on sera à Rouen et où on sera le SA15. Est-ce que le SA15 aura 7-8 points d'avance? Est-ce que Rouen sera revenu à hauteur du SA15, voire sera passé devant dans un scénario catastrophe? Bon, qui me semble quand même improbable, mais on sait jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un match hyper important. Et puis, moi, je suis beaucoup focalisé sur le rétro, un peu trop même. Et c'est vrai que c'est la réception de Rouen, hein, à l'époque où il y avait Adrien Bononato. D'ailleurs, ça avait été il me semble son dernier match. Et c'est vraiment la réception.
Non, le dernier, c'était à Colomiers, je crois.
Ouais, c'était la semaine d'après, du coup. Et donc, voilà, c'est vraiment ce match-là qui avait fait basculer. À la fois, le match avait basculé pour Rouen en fin de match, alors un match qui était imperdable. Et puis, ça avait fait basculer la saison du SA15 du mauvais côté. Rouen, c'est une revanche à prendre par rapport à ça, même s'ils étaient venus l'an passé déjà à Angoulême. Ce match-là m'intéresse, mais il m'intéresse pas forcément trop à le commenter parce qu'il y a deux matchs avant. Est-ce que le SA15 va se forger un moral en allant faire des bons résultats avant? C'est ce qu'on espère. Est-ce que Rouen va aller faire des exploits qui vont les propulser comme ils ont jamais été sur cette saison? C'est compliqué d'en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tout cas sur Valence et Agen, il faudrait au moins une victoire sur ces deux rencontres. Après laquelle, ça c'est le mieux, c'est de ne pas choisir et de gagner les deux matchs. Il faudrait au moins une victoire pour au moins garder cette équipe de Rouen derrière toi, et puis derrière, après, on parlait de bonification tout à l'heure et de creuser les écarts. Ben, il sera le temps de le faire sur ce dernier match.
Et juste rappeler une dernière chose là-dessus, un dernier avis quand même sur ce bloc-là. Si on prend Rouen et Angoulême, ça peut être l'un des blocs les plus importants de la saison.
Oui, ça peut être un bloc où Angoulême fait l'écart par rapport à
Rouen. Voilà, où Angoulême fait l'écart, parce que si Angoulême gagne, parce que moi je vois pas Rouen gagner un des deux matchs avant celui de Angoulême, donc on restera toujours à 4 points d'écart. Si nous on arrive à gagner un des deux matchs avant et qu'ensuite on gagne celui face à Rouen, on peut mettre à Rouen à 12 points.
Ouais, 12 points ou 10 points avec les bonus ou les choses comme ça.
Voilà. Mais il y aura bien sûr d'autres équipes entre Angoulême et Rouen, donc Rouen pourra quand même peut-être se sauver de cette 16e place. Mais nous, on pourra un peu plus souffler pour cette deuxième partie de saison qui sera très importante pour nous, Parce que faut rappeler, mais il y a qu'une seule descente. Hein.
Ouais. Et puis, comme tu le dis, Loïc, c'est aussi important de bien finir ce bloc. Et ce bloc est hyper important parce que au final, eh bien après c'est les vacances. Et c'est passer les vacances de Noël 16e, 15e, c'est pas pareil que passer les vacances de Noël 11e, 12e ou 13e.
Ouais, et surtout quand on est sur une dynamique positive, c'est toujours effectivement, mais je te rejoins plutôt Christian sur le fait que les deux premiers matchs vont permettre d'être ou pas sur une dynamique positive et que ce match de Rouen peut tout à fait se jouer là-dessus sur le mental et l'équipe qui sera sur cette dynamique-là aura quand même un avantage dans ce match. Et bien sûr, bon, le SAK aura aussi un avantage de recevoir à Chanzy une équipe rouennaise qui, comme tu le disais Loïc, si elle échoue lors de ses deux premières rencontres, sera quand même un petit peu la tête un petit peu à l'envers.
Juste pour finir, c'est aussi le dernier match de l'année, donc les deux équipes n'auront pas de match derrière avant longtemps, donc ils vont jouer avec les meilleures forces en présence possible. Donc ça peut être un super match à voir, ce SAK Rouen.
Ouais, ça peut être un super match. Et puis, de toute façon, pour Rouen, ça va être un peu la chance de remonter, parce que quand je vois le calendrier de Rouen, le mois de janvier qu'ils ont, ils ont 4 matchs, ils reçoivent Mont-de-Marsan, donc ça va être très compliqué. Ils vont à Brive, ça va être très compliqué. Ils reçoivent Nevers, encore plus. Et après, ils vont à Colomiers. Donc, autant dire que là, les pauvres, ils vont avoir la tête sous l'eau, quoi.
Très bien, messieurs. Bah, écoutez, cette émission se termine. Mais comme d'habitude, je vais vous demander un petit prono, car le match du SA15, ce sera vendredi prochain, vendredi qui arrive là. Un petit prono pour ce match. Le SA15 se déplace à Valence-Roman. Loïc ?
Je vois une défaite d'Angoulême. Je vois une victoire de Valence là-dessus. Une victoire de entre 12 et 15 points.
D'accord. Christian ?
Moi, je pense que le SA15 va s'imposer à Valence un score de 22 à 20, une fin de match serrée où finalement il y aura 22-19 et il y aura une pénalité de Ben Petitka à la fin ou de Louvoir qui jouera à ce moment-là et le SA15 prendra la victoire sur cette dernière pénalité à quelques secondes de la sonnerie.
Ah bah franchement, je prends. Hein.
J'étais pas très loin sur mon prono de Grenoble parce qu'à un moment donné, j'avais dit 12 partout, il y a eu 12 partout. Hein.
Voilà, mais bon, malheureusement ils ont dû, les joueurs ont dû t'écouter, ils n'ont pas voulu te faire gagner ce point.
Ouais,
non, c'est ça. Et moi, je vais être entre les deux, c'est-à-dire jouer une courte défaite du SA15 avec un petit bonus défensif obtenu justement par la botte de Botica ou de Dubec, je sais pas trop, dans les dernières minutes pour aller chercher un point de bonus défensif, ce qui serait déjà très bien en perspective des deux matchs à domicile qu'il faudra gagner.
C'est très bien si très tu veux, hein. Après c'est toujours à mettre en perspective après ce qui se passe derrière.
Tout à fait. Mais bon, déjà prendre un point à l'extérieur, ça me semble pas plutôt correct pour débuter ce bloc. Très bien, messieurs. Écoutez, cette émission se termine. On se donne rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure. En attendant, on vous souhaite une bonne semaine et puis surtout un très bon match du SA15 vendredi soir à Valence-Roman. Salut.
Réagissez à l'émission sur Facebook, le SA15 Magattitude.